Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous. Alors, par l'écoute des deux dernières émissions, la numéro 22 et 23, vous êtes maintenant familiarisé avec la sculpture, puisque je l'ai extirpée du fond des âges pour vous donner les bases et en même temps vous démontrer que la sculpture, comme la peinture, a accompagné l'histoire des hommes et le développement des civilisations. Alors, après ce petit voyage à travers le temps jusqu'au 19e siècle, vous pouvez prendre le relais avec les podcasts de La Voix des Arts par Christine Darboux grâce à Internet. Sur le site RLP, Radio Libre en Périgord, facilement accessible avec les moteurs de recherche. Et en effet, les émissions, jusqu'à la numéro 16 inclus, je pense, abordent les différents courants artistiques du 19e siècle jusqu'à maintenant. Et c'est une quantité d'informations que je me suis efforcée de mettre à votre disposition afin que vous puissiez approfondir un sujet, et notamment la sculpture. Alors, d'autre part, sachez que vous pouvez aussi, si vous le désirez, donner votre avis sur le site RLP. Alors, rappelez-vous également que Radio Libre en Périgord est une radio associative qui vous concerne, vous, habitants de Périgueux, de Coulonnier-Chamiers, Périgourdins en général. Elle s'adresse à vous, parle de vous et vous écoute, même si elle n'émet que dans un rayon de 30 km autour de Périgueux. Mais avec Internet, vous sortez des limites imposées par les ondes radio. Et ce qui est positif, car l'éclectisme, la diversité et la qualité des émissions de mes collègues animateurs ou journalistes dépassent pour la plupart, et à mon avis, le cadre limité pour lequel elles ont été conçues. Aussi, je vous invite à les découvrir. Alors voilà pour le chapitre RLP et le bénéfice qu'elle offre à ceux qui l'écoutent à la radio ou Internet. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler ? Eh bien, nous allons rester dans le domaine de la sculpture pour nous intéresser à une personnalité, un sculpteur, que j'ai découvert par hasard en 2009 en fréquentant un salon littéraire parisien. Alors, je dis par hasard, parce que je ne m'attendais pas du tout à être sollicitée de la manière dont je le fus. Et en effet, j'assistais malgré moi à une discussion un peu électrique entre deux personnes, l'une connue dont je tairai l'identité par discrétion, et l'autre dont j'appris par la suite qu'il était également dans le domaine artistique, par l'écriture notamment, et qu'il mettait un point d'honneur à publier des biographies d'artistes du passé, plus ou moins incompris ou oublié. Alors, quoi qu'il en soit, mon attention attirée par les voix, notamment celle du personnage connu que j'apprécie, et ensuite mon intérêt retenu par le motif de la discussion, ont contribué à ce que je reste à proximité des deux hommes. Et de toute façon, les voix étaient suffisamment claires et audibles pour mobiliser l'attention de n'importe quel passant. Alors apparemment, ma présence ne dérangeait pas, elle n'arrangeait pas plus d'ailleurs, tout au plus était-elle acceptée, puisque je me suis permis, avec ma petite voix et avec le plus de tact possible, d'essayer de concilier les contraires, voire même arrondir quelque peu les angles. Au moins trouvèrent-ils chez moi oreilles complaisantes pour achever d'exprimer leur doléance. Or, ceci dit, ma curiosité fut piquée au vif lorsque je me rendis compte que l'objet de la conversation concernait un sculpteur du passé, décédé maintenant, et que mes yeux tombèrent sur la couverture d'un ouvrage représentant l'une de ses œuvres. D'ailleurs, je crus confondre son nom avec le mien, tant la consonance était proche, car de Darboux à Dardet, il n'y a qu'une syllabe de différence. Et de plus, j'appris que ce sculpteur était natif de la même région que mes ancêtres Darboux, c'est-à-dire du sud, près des Cévennes, etc., enfin dans ces coins-là. Alors, ce sculpteur nommé Paul Dardet restait un inconnu malgré mes efforts pour me souvenir de lui. Mais j'avais envie d'en savoir plus, aussi ma curiosité m'engagea à échanger quelques mots avec le promoteur de l'artiste et l'auteur de l'ouvrage nommé Paul Dardet, sculpteur, dessinateur de l'âme humaine. Et c'est ainsi que, grâce à Christian Puech, je fis connaissance avec Paul Dardet et appris qu'il était né à la fin du 19e siècle, avait conquis une certaine renommée par son travail et son talent, avant de tomber dans l'oubli et finir dans la misère pour s'être opposé à des puissants de sa région. Alors, je n'ai échangé que quelques mots avec l'auteur pour savoir à qui j'avais affaire et comprendre qui était le sculpteur. Je ne me suis même pas présentée, car je ne faisais que passer, et ce qui m'importait, c'était de repartir avec l'essentiel, à savoir l'information sur le sculpteur et éventuellement sur l'auteur de sa biographie. Et je repartis donc avec une petite documentation remise par Christian Puech. Et peut-être que cet événement serait passé aux oubliettes, malgré l'accroche, si dans la journée, ou le lendemain, ou dans la semaine, je ne sais même plus, je ne m'étais pas retrouvée devant la vitrine d'une boutique fermée, qui n'avait rien de spécialement attrayante pour que je m'y arrête, sauf que je me suis aperçue que j'avais sous les yeux le livre de Paul Dardet. Alors, était-ce d'ailleurs le livre? Je ne sais plus non plus, mais en tout cas, son nom et une photo de son œuvre étaient devant moi. Alors, ce concours de circonstances m'est apparu comme une curieuse coïncidence pour m'inciter à en savoir plus. Alors, bien que je n'ai pas cherché à revoir l'auteur du livre, même s'il me semble endosser la délicate mission de sortir Paul Dardet de l'obscurantisme dans lequel il a été plongé, je reconnais que c'est tout à son honneur, car en effet, j'ai constaté sur Internet que Paul Dardet était un artiste talentueux et productif, vu la qualité et la quantité des œuvres que je n'ai pu admirer, hélas, que sur l'écran. Et de plus, il semblerait qu'il fût également un humaniste soucieux de justice sociale et qu'il ait payé pour cela. En tout cas, c'est ce que j'ai lu sur Internet. Ce qui me fait penser que son travail mérite d'être mis en lumière, ainsi que sa personnalité, tant il est vrai que j'accorde une attention particulière quand l'art et qualité humaine se conjuguent. Alors, l'autre clin d'œil du destin, disons cela, comme quoi pas 203, ce fut l'année dernière, ou il y a 2 ans, en visitant la SOCRA, l'atelier dédié aux réparations des sculptures du patrimoine, qui est situé près de Périgueux, et je l'avais visité principalement pour la rénovation de la statue de l'archange Michael, qui avait attiré à cette époque l'attention de la presse écrite et télévisée, si vous vous souvenez de l'événement. Alors, avec l'habitude de fourrer mon nez un peu partout, mes yeux sont tombés sur une plaquette concernant Paul Dardet que j'ai laissée parce qu'elle n'était pas destinée au public. Néanmoins, j'ai retenu l'anecdote qui m'a invité à me réintéresser au sculpteur. Et j'ai appris en outre que Paul Dardet était à l'origine, comme quoi on ne peut pas tout savoir, de la sculpture de l'homme préhistorique placé devant la grotte des Aisy en Dordogne. Alors, qui est Paul Dardet? Essayons quand même d'en savoir un peu plus pour que vous le situiez dans le temps et fassiez également sa connaissance. Alors, sachez que ces informations, ce sont celles trouvées sur Internet, je n'ai pas d'autres sources. Alors, Paul Dardet est né début juillet 1888 dans l'Hérault. Il est fils de paysan et doit seconder son père relativement jeune à sa sortie de l'enfance, ce qui l'oblige à quitter l'école, mais cela ne l'empêche pas de s'éduquer par lui-même en fréquentant la bibliothèque. Apparemment, ses nombreuses lectures ont inspiré ses créations. Il s'intéresse aussi très jeune à l'art, jusqu'à pratiquer le dessin et la sculpture sur pierre. Alors, ses belles dispositions sont remarquées par l'entourage. Il est encouragé dans cette voie par un professeur d'art qui le valorise de telle sorte qu'en même temps qu'il fait son service militaire, il fréquentera les Beaux-Arts, ceux de Montpellier d'abord, puis Paris, jusqu'à obtenir une bourse d'études en Italie, ce qui apparemment le ravira. Et on peut le comprendre, car il y a de quoi pour une sensibilité artistique. Alors, à Paris, il fréquentera même assez rapidement d'ailleurs l'atelier de Rodin. Et de retour dans sa région, il crée son propre atelier dans la ville de Lodève. Alors, comme vous le savez, à cette époque, hein, l'artiste, sculpteur sur pierre notamment, professionnel, intéresse l'État pour sa technique, son savoir et son travail créatif, et non pas ses capacités à produire de l'argent. Aussi, pour vivre et évoluer, ben, il reçoit des commandes, ainsi que de localités, voire de particuliers, pour une statuaire dédiée globalement à rendre hommage et commémorer, etc. Alors la guerre arrive et en 1914, ben, il s'engage comme brancardier. Et apparemment, d'après ce que j'ai lu, les horreurs de la guerre le marqueront jusqu'à influencer sans doute son art pour lui donner davantage de profondeur ou de gravité. Alors je rappelle que cette guerre fut particulièrement dévastatrice, notamment sur le psychisme des hommes qui en sont revenus. Alors après-guerre, eh bien, il reprend ses activités de sculpteur, expose à Paris au Grand Palais deux pièces, dont l'une est l'Éternelle Douleur, hein, qui est maintenant au musée d'Orsay de Paris. Alors c'est une pièce en pierre de gypse, une tête féminine, représentant la fameuse méduse de la mythologie, et donc des serpents composent la chevelure de cette figure féminine au délicat modelé, empreint d'une retenue douloureuse. Et l'autre sculpture en pierre monumentale, bien c'est le Grand Faune qui reçoit le Grand Prix National des Arts 1920. Et il s'agit d'une pièce impressionnante et très expressive qui m'a rappelé par certains côtés Michel-Ange. En tout cas, cette sculpture s'est imprimée dans ma mémoire, même si je n'ai pu l'apprécier que sur Internet. Alors, ce travail lui assure renommée et les commandes suivent, notamment pour réaliser des monuments aux morts, suite sans doute à la guerre, et ceci principalement dans le sud, hein, pour des villes comme Le Dève, Lunel, Limoux, etc. L'homme préhistorique pour les Ésies en Dordogne, lui, sera produit en 1924. Alors, d'après ce que j'ai lu sur Internet, toujours, il a pensé à tort que sa notoriété lui permettrait de prendre parti pour soutenir et aider les plus humbles et les plus faibles contre l'exploitation des puissants de sa région. Ce qui s'est retourné contre lui puisqu'il a fait l'objet de sabotages et de persécutions qui l'ont conduit peu à peu à sa chute jusqu'à ce que son atelier soit vendu aux enchères et qu'il soit coupé de ses soutiens amicaux influents, intercepté dans leur élan par les adversaires, etc. Alors il se bat, hein, sans doute, jusqu'au moment où, dégoûté de tout, et notamment de ses contemporains, il se réfugie dans le Larzac, reconstruit son atelier et reprend son travail en s'isolant des autres, ce qui ne l'empêchera pas de continuer à sculpter des personnages historiques, mythologiques et à dessiner. Et apparemment, d'après ce que j'ai lu et le peu que j'ai vu sur Internet, ben, c'était un excellent dessinateur. Alors d'où venait son humanisme ? Bon, bah, c'était sans doute quelqu'un de sensible, artiste, on peut le supposer en tout cas d'après ce qui est dit de lui, qui a souffert, on le sait, de la guerre entre autres, qui lisait beaucoup, aussi bien Dante, Shakespeare que la Bible et les évangiles à ce qu'il paraît, ce qui l'inspirait certainement dans ses créations. Alors c'est tout un ensemble qui fait que je suppose qu'il s'interrogeait sur la condition humaine, l'absurdité des actions de l'homme, son impuissance face aux aléas du destin, le sens de l'existence, plus questionnement métaphysique, enfin peut-être. En tout cas pour moi, il est pratiquement sûr que ce qui se passe entre les mains de l'artiste est le fruit d'un travail de l'esprit. Ce qu'il voit et vit le marque dans son âme et ce qu'il lit ben, suscite bien souvent questionnements, réflexions, ressentis. Aussi, ses créations sont des émanations de tout un travail intérieur, même si les réalisations semblent s'inscrire dans la tendance de l'époque qu'il traverse. Alors pour en revenir à sa biographie, en 1956, il tombe gravement malade, ce qui l'oblige à revenir par commodité dans sa maison familiale de Lodève, où il se renferme sur lui-même et meurt en décembre 1963 dans la misère et l'oubli de tous. Alors nous allons faire une pause musicale et je vais vous faire écouter une étrange chanson de Leonard Cohen, l'un de nos musiciens contemporains, et dont la lancinante musique accompagne des paroles mystérieuses qui semblent nous parler de la condition humaine sous forme d'une interpellation à Dieu, au Créateur suprême. Alors le titre, « You want it darker », tu le veux plus sombre, ben vous trouverez la traduction française sur internet. Et ça commence, si c'est toi qui mène la danse, je me retire du jeu. Si c'est toi qui penses, ça veut dire que je suis blessé, boiteux. Inéni, inéni, me voici Seigneur.
If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. Hineni, hineni, I'm ready, my lord. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker, we kill the flame. Lining up the prisoners and the guards are taking aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? Hineni, hineni, I'm ready, my lord.
Yeah.
Après ce petit intermède qui semble bercer les âmes désabusées, retrouvons la veuve de Paul Dardé qui, dépouillée de tout, sauf d'une production artistique importante et notamment des écrits plus ou moins subversifs et contestataires adressés à ses adversaires, se tourne alors vers Christian Puech, l'arrière-petit-fils d'un ami. Et elle le fait par l'intermédiaire d'un acte notarié pour qu'il écrive et publie la biographie de Paul Dardé ainsi que ses écrits. Alors Christian Puech s'en acquitte en 1992 et c'est ainsi que paraît Paul Dardé, sculpteur, dessinateur de l'âme humaine. Et c'est toujours lui qui entretient d'ailleurs sa mémoire. Et j'ai vu sur internet, outre ses écrits sur artistes, qu'il est également explorateur, photographe, défenseur de cause. Actuellement celle des Indiens du Brésil, menacée par les débordements de la modernité. Bon, c'est mon constat hein, rapide, car je cherchais surtout des informations sur Paul Dardé, mais le site est accessible avec les moteurs de recherche à Christian Puech, P-U-E-C-H, où il parle justement du sculpteur. Alors sinon, en ce qui concerne Paul Dardé aujourd'hui, le musée Fleury de l'ODEF, que j'aimerais visiter quand même, regroupe quantité de ses dessins et sculptures. Alors quoi qu'il en soit, l'essentiel fut bien de découvrir un véritable artiste à qui je rends hommage ici avec sincérité, car il fut prolifique en s'attaquant à la dureté de la matière et à celle du monde. Alors je reviens sur ce clin d'œil du destin qui fait que je parle aujourd'hui de cet artiste dans mon émission. Je me suis interrogée sur le sens car j'aurais pu passer sans rien voir ni entendre, mais mon regard a été attiré par un personnage connu et apprécié et mes oreilles sollicitées pour entendre une conversation. Puis ensuite, au détour d'une rue parisienne, par un curieux hasard, je reçois comme une piqûre de rappel qui s'est répétée il y a peu de temps. Après, dans un lieu dédié à la restauration de la pierre, entre autres matériaux. Et je viens de me rendre compte que j'avais reçu un rappel encore, il n'y a pas très longtemps, en 2016, concernant la ville de l'ODEV. Alors à partir de tout cela, j'ai joué au petit pousset, puisque j'ai ramassé des cailloux discrets, mais familiers, qui m'ont rappelé ce que j'ai en commun avec Paul Dardé, notamment mes antécédents familiaux, engagés dans le social, nos noms qui parlent d'art, jusqu'aux nombres et signes astro, nos vocations, voire la complexion de nos âmes, etc. Et en recueillant chacun d'eux, chaque pas m'a fait avancer sur un chemin comme pour un retour en arrière. Cependant, c'est bien cette anecdote ponctuée de coïncidences qui fait que je ne peux pas m'empêcher de penser que parfois, lorsque nous croyons que nos pas nous emmènent vers le futur, nous repartons en arrière alors que nous pensons avancer, comme si passé, présent et futur étaient étroitement mêlés, ne faisant qu'un à chaque pas posé dans le quotidien. Alors, est-ce juste de le penser ? Oui et non, je vais essayer de m'expliquer sans m'embrouiller. Alors ce que je pense, c'est nous ne retournons pas en arrière, par contre nous emportons quelque chose du passé qui se rappelle à nous, avec peut-être un sens, en tout cas quelqu'un comme moi le souhaite. De plus, j'ai tendance à écarter le hasard lorsque trop de coïncidences se présentent et je me pose la question, qu'est-ce que cela veut dire ? Alors j'y vois aussi ce que les psys nomment désynchronicité pour ces clins d'œil du destin, correspondance, répétition, qui nous intriguent et nous dérangent parfois, mais nous invitent à trouver une interprétation. D'où des questionnements, quelque chose du passé doit-il être réglé, éliminé ou rappelé pour ne pas être oublié ? Alors dans mon anecdote, il m'apparaît juste pour moi de ne pas oublier ce sculpteur de talent et plus intimement, y a-t-il un message et quel est-il ? Ça c'est mon histoire. Il n'empêche que ce que je dis peut vous intéresser dans le sens où ce qui va suivre nous concerne tous, car sous prétexte d'avancer, c'est comme un retour en arrière. Alors là, je suis consciente de dépasser le contexte de l'histoire d'un bon sculpteur du passé en y introduisant des réflexions philosophiques sur la nature évolutive de l'être humain, ses fonctionnements psychologiques, si ce n'est plus, et là, je le dois au questionnement provoqué par l'anecdote. Mais après tout, pourquoi pas, Auguste Rodin ne disait-il pas en parlant seulement d'art, l'art est la plus sublime mission de l'homme puisque c'est l'exercice de la pensée qui cherche à comprendre le monde et à le faire comprendre. Tout à fait d'accord, hein. J'ai laissé temporairement la matière, les mots sont à disposition, alors allons-y. Alors il est clair que l'anecdote met chez moi en relief les lois naturelles et fondamentales de l'évolution qui nous demandent d'avancer car la vie est mouvement, transformation perpétuelle, nous ne pouvons pas échapper car l'arrêt signifie une fin voire la mort mais qui suivie d'une transformation par le signe de renaissance etc. Ce qui veut dire que nous sommes inscrits en tant qu'êtres incarnés dans l'éternel cycle sans cesse renouvelé de vie, de mort et de renaissance. Et aussi, j'ai constaté à l'usage, pour moi comme pour d'autres, hein, que cheminer, s'inscrire dans cette dynamique évolutive qu'est la vie, impose souvent des allégements et donc des délestages de bagages trop encombrants pour ne garder qu'un essentiel transformé afin qu'il soit vivifiant et nourrissant et non pas pesant et bloquant. Le tout est de comprendre ce qu'il faut jeter, garder et transformer pour aller de l'avant. Or, cela s'applique au niveau matériel, physique, extérieur, social, mais également au niveau psychologique, intérieur, personnel. D'ailleurs, ne se libère-t-on pas en se délestant de ce qui entrave notre marche issue de nos racines, de notre passé, de notre système de pensée, de nos conditionnements, de règles erronées, et c'est opérer une transformation bénéfique quand, au niveau psychologique, le processus s'enclenche à coup de prise de conscience et d'une remontée de l'inconscient au conscient grâce à un travail sur soi. Alors le principal est de s'inscrire dans cette dynamique évolutive en évitant également le piège du déni qui correspond à la technique de l'autruche avec sa tête dans le sable, car enfouir l'inconfortable problème n'est pas le traité qui attend son heure pour rejaillir sous le coup d'un révélateur, événement ou personne qui est peut-être une bonne occasion pour travailler dessus afin de continuer à évoluer. En tout cas, léger notre fardeau rend notre pas plus léger et avec un regard renouvelé, nous appréhendons mieux notre présent afin de continuer à cheminer et de même nous saurons nous appuyer sur un passé nourrissant pour assurer nos pas. Alors parfois le processus s'enraye, les énergies s'inversent et ce sont des répercussions négatives imposées par des épreuves subies, des pertes parfois brutales, hein, santé, amour, amis, argent, travail, etc. Alors comment réamorcer, réactiver un processus de dynamique de vie ? D'ailleurs, vous voyez ce qui se passe lorsqu'une personne reste engluée dans le passé ou suite à un traumatisme psychologique. Car il est vrai que l'on peut rester enquisté dans une épreuve trop lourde, un passé avec une généalogie problématique, des schémas sclérosants, d'où l'intérêt de consulter des thérapeutes, éclairés si possible, pour qu'ils vous aident à y voir clair et sortir de l'ornière afin de vous remettre en route malgré les douleurs. Alors, je profite de ces propos pour amorcer d'ailleurs ce qui seront mes sujets futurs, notamment expliquer le lien qui existe entre l'art et le soin, plus communément nommé art-thérapie, ou bien comment envisager l'art, notamment comme processus de transformation. Alors, je n'oublie pas non plus l'une des missions de l'artiste dans notre processus évolutif, c'est celle de nous inciter à affronter nos zones d'ombre, nous ouvrir à la nouveauté ou transformer notre regard et considérer la vie sous un autre angle ou savoir apprécier sa beauté, etc. Alors, je ne peux encore une fois m'empêcher de penser à Rodin qui avait réalisé L'Homme en marche, d'ailleurs repris par d'autres artistes, notamment Giacometti, et la symbolique de L'Homme en marche est forte. Et encore une fois, l'art me fait prendre conscience de son pouvoir transformateur, transformation dont l'objectif majeur est toujours d'évoluer et d'avancer. Alors avant de terminer ce chapitre, je rappelle que nous sommes dans le pays de l'homme, parce que le passé a puisé ses racines si profondément dans la terre que nous gardons souvenirs et vestiges d'êtres qui se sont mis debout avant de pouvoir marcher pour s'appeler homme et dont les premiers gestes, hors la survie, ont été de créer, voire la grotte de Lascaux. Alors, ce n'est pas rien. Hein. Imaginez cet homme du passé qui se distingue de son animalité en se mettant debout pour marcher. C'est entendu au sens propre, physique, mais qu'en est-il au niveau de la symbolique, du psychologique, pour nous, hommes de maintenant ? Or, notre leçon de vie, commune à tous, ne serait-elle pas d'avancer dans le présent en regardant devant soi et en s'appuyant sur un passé intégré, régénéré, épuré ? Alors, envie de dire oui, et en entrevoyant une dimension plus spirituelle pour l'homme de demain. Le débat est ouvert. Voilà où Paul Dardet m'a conduit, moi qui, comme lui et les autres sculpteurs ou modeleurs, souffrons à insuffler la vie et mouvement à la matière inerte et statique, car il est vrai que rien ne semble plus pesant, compact et immobile que la pierre et aussi la terre, même molle, puis heurtée au monde qui nous barre. Alors maintenant que je connais Paul Dardet, mais je lui dois cette conscientisation d'une vérité ontologique développée devant vous qui donne sens à l'existence humaine, à sa difficulté à être et aussi ses raisons pour créer malgré les obstacles, surtout lorsqu'il naît artiste. C'est dire chez l'artiste combien la main est le prolongement de l'esprit qui la guide. Sur ce, Christine Darboux, à la barre de la Voix des Arts, vous salue.